de lire un texte dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc est beaucoup lu en cette période de Noël, et bien souvent nous lisons les premiers versets du chapitre 2 qui annonce la naissance de Jésus-Christ. Et je vous propose de lire ce qui précède juste avant, à la fin du chapitre 1. Je vais commencer la lecture au verset 57 du chapitre 1, même si j'ai plutôt devant moi de parler de ce chant de Zacharie. Naissance de Jean le baptiseur, je lis dans la Nouvelle Bible seconde. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa parenté apprirent que le Seigneur avait fait preuve envers elle d'une grande compassion et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent circoncire l'enfant et ils allaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère dit « Non, non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom ». Il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean ». Et tous s'étonnèrent. À l'instant même, la bouche de Zacharie s'ouvrit, sa langue se délia, il se mit à parler et à bénir Dieu. Tous les habitants des alentours furent saisis de crainte et dans toute la région montagneuse de la Judée on discutait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mirent à réfléchir. Ils se demandaient « Que sera donc cet enfant ?» Car la main du Seigneur était avec lui. Puis nous avons l'hymne de Zacharie dont on peut bien penser que c'est ce que Zacharie a dit à la fin du verset 64 quand il bénit Dieu. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir, sans crainte, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Or l'enfant grandissait et devenait fort par l'esprit, il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » L'Évangile selon Luc est riche en son début de chants, de cantiques. Et il y en a quatre, et ce n'est pas pour faire pédant, mais c'est parce qu'ils ont été chantés par l'Église depuis des siècles et des siècles. On les désigne souvent sous un nom latin. Il y a le Magnificat, c'est le chant de Marie, quand elle loue le Seigneur lors de la visite d'Élisabeth. Le deuxième, c'est celui-ci, qui est appelé le Benedictus. Alors pourquoi ces noms-là? C'est parce que c'est le mot latin qui commence le chant en question, le cantique en question. Magnificat monam, magnifie le Seigneur. Et là, on appelle ça le Benedictus parce que vous avez vu au début, béni soit le Seigneur. Puis ensuite, il y a celui que nous avons chanté dimanche dernier, au chapitre 2, le chant des anges dans la nuit de Bethléem, le Gloria. Et puis, il y a le quatrième, le chant de Siméon, le cantique de Siméon, qui s'appelle aussi le Nunc Domitis, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole. Et donc, de ces quatre chants, peut-être le moins connu est-il le Benedictus, peut-être. C'est en tout cas pas celui forcément que nous lisons tout le temps, mais il me semble qu'il était intéressant d'en dire quelque chose, à la fois parce que nous sommes en ce quatrième dimanche de l'Avent, donc juste avant Noël, et c'est le chant qui est juste avant la naissance de Jésus-Christ dans cet évangile selon Luc. Et puis, c'est un chant que nous trouvons dans l'évangile selon Luc, cet évangile dans lequel nous lisons plus particulièrement au cours de cette année scolaire. Et en plus, nous avons un thème sur la louange. Vous voyez, donc, cela fait intersection entre différents thèmes qui se correspondent un peu les uns aux autres. Alors, je ne vais pas faire l'exégèse détaillée de ce magnifique hymne de Zacharie, mais juste pour dire que c'est un hymne qui revêt une importance toute particulière, et Luc le souligne ainsi, même si peut-être à la première lecture, nous passons rapidement là-dessus, puisque, que nous est-il dit au verset 67, donc cet hymne qui est la première parole, en fait, que Zacharie prononce depuis 9 mois. Pendant 9 mois, Zacharie, muet, incapable de prononcer un mot. C'est long, 9 mois, pour pas s'en parler, hein, surtout pour ceux qui sont un peu bavards. Alors, je ne sais pas si Zacharie était bavard, mais s'il y a des bavards, 9 mois sans parler, ça fait très très long. Et la première chose qu'il dit, c'est, comme nous l'avons vu au verset 64, « Sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il se mit à parler et à bénir Dieu. » Et l'Évangile nous conserve cette bénédiction prononcée par Zacharie. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Mais auparavant, vous noterez le verset 67. « Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint », expression assez fréquente sous la plume de l'évangéliste Luc, et que nous retrouvons ici, et se mit à parler en prophète. Il se mit à parler en prophète. S'il y avait eu 9 mois de silence pour Zacharie lui-même, Dieu s'était tu pendant 430 ans. Pendant 430 ans, il n'y avait pas eu de parole prophétique. Le dernier prophète, Malachie, c'était à peu près vers cette période-là. C'est pas exactement, peut-être à 10 ou 20 ans près, mais enfin, ça faisait plus de 400 ans, en tout cas, que la parole prophétique s'était tue, que Dieu n'avait plus fait entendre sa voix par les prophètes. Et là, nous avons cette expression, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète. C'est l'avant-dernier prophète, Zacharie. Jean, son fils, sera le dernier, et il le désigne comme tel dans l'hymne qu'il prononce, puisque au verset 76, il indique bien « Mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ». Et donc l'avant-dernier prophète se met à parler, et il nous donne ce magnifique cantique de Zacharie. Et ce cantique de Zacharie, il me semble, nous pouvons le voir en 4 strophes, si j'ose dire, successives, et il y a 4 personnages, mais on verra que ces 4 personnages en deviennent finalement qu'un seul. Il y a David, dont il est question au verset 69. Il y a Abraham, dont il est question au verset 73. Il y a l'enfant, Jean, qui vient de naître au verset 76. Et puis, il y a ce soleil levant, ou cet orient d'en haut, comme le traduit Darby, j'ai grandi avec cette expression, au verset 78. Donc, 4 facettes, mais en fait, ces 4 facettes n'en forment qu'une. Parce que le cantique de Zacharie est tout entier à la gloire de celui qui était sur le point d'arriver et dont l'arrivée nous est montrée quelques versets après, au début du chapitre 2 du même évangile. Celui qui va naître du sein de Marie pour être mis au monde, ce fils premier-né dont il est question dans ce bouleversant verset 7. Du chapitre 2. Et alors, juste avant, Dieu permet que par l'Esprit, Zacharie s'exprime et rassemble en ces quelques versets que nous avons, des versets 68 à 79, donc 12 versets, un hymne relativement concis, eh bien, un nombre de promesses, d'éléments de l'Ancien Testament qu'il noue ainsi dans une gerbe absolument magnifique, pour nous présenter le portrait de celui qui devait venir. Parce que c'est un hymne, un cantique tout entier à la gloire du Messie. Et donc, je vous propose de regarder un petit peu ces 4 facettes. Tout d'abord, le Messie, eh bien, c'est ce puissant descendant de David. Ce puissant descendant de David. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Alors, peut-être que cette expression-là ne nous frappe pas, mais pour un juif qui était là, pour ceux qui étaient venus à l'occasion de la circoncision du petit Jean, eh bien, c'était des choses qui faisaient écho, qui faisaient résonance. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vous invite à revenir dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre... Alors, il faut que je retrouve le verset. Voilà, verset... Voilà, c'est ça. 1 Roi 1, verset 48. 1 Roi 1, verset 48. Alors, je vais juste... C'est l'introduction de Salomon qui va être établi roi. Donc, David est très vieux, il est dans son lit et il est tout content parce qu'il y avait un complot qui finalement a été déjoué. Et puis, finalement, David sait que Salomon est assis sur le trône royal. Et que dit-il au verset 48 ? « Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a placé aujourd'hui quelqu'un sur mon trône et qui a permis que mes yeux le voient. » Et Zacharie reprend exactement la même expression. Et pourquoi la reprend-il ? C'est parce que l'Esprit de Dieu veut faire le lien entre ce qui s'était passé en 1 Roi chapitre 1, où David a anticipé ce fils de David, mais on sait bien que Salomon, hélas, ne sera pas à la hauteur. Et donc, ça nous dirige vers un autre fils de David. Dieu avait fait des promesses à David. Au chapitre 7 du second livre de Samuel, en lui disant qu'il y aurait quelqu'un assis sur son trône et son règne serait à jamais. Le règne de Salomon n'a pas été à jamais, il s'est au contraire terminé en... de boudin. Mais en revanche, il y avait cette attente d'un héritier qui allait venir. Et cette attente s'était faite chaque siècle plus vive, jusqu'à ce que le prophète Ésaïe surgisse sur la scène et soit là pour annoncer que, aussi un texte qu'on va lire et qu'on va entendre plein de fois autour de Noël, Ésaïe chapitre 9, verset 6, où Dieu va annoncer qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur son épaule, et on l'appellera, etc. Étendre la souveraineté et accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Au trône de David et à son royaume, eh bien, dès maintenant et pour toujours. Donc il y avait cette annonce qu'un héritier de David, dans la maison de David, son serviteur, il y aurait quelque chose qui serait suscité. Je reviendrai sur cette expression. Mais encore un mot sur « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». David, vous savez quelle a été son occupation favorite ? C'était quoi, David ? Son occupation favorite ? Il composait des psaumes. Voilà. Et à la fin du premier livre des psaumes, qu'est-ce qu'on lit ? « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Qu'est-ce qu'on lit à la fin du deuxième livre des psaumes ? Pareil. Qu'est-ce qu'on lit à la fin du troisième livre des psaumes ? Pareil. Cette expression qui est là. Et donc, ça nous rappelle aussi, ça nous renvoie non seulement vers un roi, ça nous renvoie non seulement vers 2 Samuel 7, mais ça nous renvoie aussi vers ce livre des psaumes où il y avait aussi cette attente messianique de celui qui allait être plus beau que les fils des hommes, celui dont David, finalement, avait permis d'exprimer par avance des sentiments et quelque chose de ce qu'il allait accomplir. Donc, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité, d'être intervenu en faveur de son peuple. J'aime pas tellement cette traduction, je préfère d'avoir visité son peuple, d'avoir visité son peuple. C'est la traduction la plus littérale que l'on peut donner de cette expression. Dieu a visité son peuple. Et là aussi, un juif qui entend ça, à quoi ça lui fait penser ? Dieu visite son peuple. Eh bien, forcément, ça lui fait penser à Exode. Exode au chapitre 3, quand Dieu dit à... Alors, là aussi, je vais essayer de retrouver le texte. Voilà, c'est Exode 3, verset 16. Et voilà... Exode 3, verset 16, je lis dans la Darby pour que ce soit plus littéral. « Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disant, certainement, je vous ai visité. Je vous ai visité. » Et donc, cette expression, « Dieu a visité son peuple », elle est extrêmement riche de sens et d'arrière-plan. Dieu, déjà Joseph avait annoncé que à ses frères, au moment où il allait mourir, « Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux dans le pays. » La visitation de Dieu, c'est Dieu qui, dans des circonstances difficiles, intervient en notre faveur. C'est ça la visitation de Dieu. Et Dieu a visité son peuple. C'est ce que Zacharie annonce ici dans son hymne, que Dieu a visité son peuple. Il est intervenu et il nous a suscité cette corne de salut. Alors là aussi, ça ne nous parle pas tellement. Qu'est-ce que ça veut dire une corne de salut ? Bien, à l'époque, c'était, les Juifs, c'était quand même un peuple de bergers à la base. Hein. Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient des troupeaux. Et donc après, s'ils se sont sédentarisés et sont devenus aussi des cultivateurs, ils restaient à la base un peuple de bergers. Et il y avait beaucoup de troupeaux en Palestine au 1er siècle. Et donc, qui dit troupeau, dit des animaux, et aussi forcément un taureau, forcément un bélier. Cet été, avec Michel et Véronique, on a vu un bélier qui avait sauté son enclos. Les cornes, elles étaient belles, hein, on n'aurait pas voulu se faire encorner par lui. Hein, c'était assez impressionnant, assez impressionnant. Et donc la corne, à l'époque, c'était le symbole même de la puissance. Et donc, quand Zacharie dit que Dieu a visité son peuple et a suscité une corne de salut, ça veut dire que Dieu va intervenir en salut, mais avec puissance. Avec puissance. Alors cette puissance, il a fallu que Dieu la démontre pour cette naissance virginale extraordinaire de Jésus-Christ. Et cette puissance, elle s'exerce dans la maison de David, son serviteur. Donc là, Zacharie n'a pas du tout en vue Jean, parce que Jean, c'est son fils, et lui, Zacharie, c'était un sacrificateur, donc il était de la tribu de Lévi, et pas du tout de la tribu de David. Donc là, ce que Zacharie évoque, c'est bien entendu le Messie dont Jean allait être le précurseur, et qui est cette corne de salut. Et donc ça nous parle de la puissance de Dieu qui va exercer ce salut. Alors, à quoi pensait Zacharie quand il dit tout cela ? Il parle par l'esprit, et peut-être que l'esprit lui fait dépasser un petit peu ce que lui-même pouvait se représenter, parce que si on va à la fin de l'évangile selon Luc, au chapitre 24, on a le pendant un peu de ce chapitre 1, où on a les disciples d'Emmaüs qui disaient, ben nous on espérait qu'il allait délivrer Israël, qu'il allait bouter les Romains hors de Palestine. Ben ça ne s'est pas passé. Et donc cette puissance, il est question d'ennemis, de ceux qui nous détestent, etc., dans l'hymne de Zacharie, peut-être que Zacharie, il avait en vue la garnison romaine qui stationnait à quelques kilomètres de là, c'est possible. Mais en fait, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était d'exercer cette extraordinaire puissance, mais pour assurer la rédemption, pour assurer le salut. C'était cela que Dieu avait en vue. Parce que c'était cela dont nous avions besoin fondamentalement, de cette délivrance, cette corne de délivrance, cette délivrance de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être qu'on a, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, des ennemis physiques, mais les ennemis qui nous haïssent, d'abord et avant tout, c'est quoi ? Ce sont ces puissances spirituelles de méchanceté et d'autorité qui sont dans les lieux célestes et que Jésus a desquels Jésus a triomphé à la croix, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Et donc c'est ce triomphe que Zacharie magnifie dans la première strophe de ce très beau cantique. Dans la deuxième strophe de notre cantique, eh bien, il va faire le lien cette fois-ci non plus avec David, son serviteur, mais avec Abraham. Et là, vous voyez le parallèle qui existe entre l'évangile selon Luc et l'évangile selon Matthieu. Puisque dans l'évangile selon Matthieu, on voit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et c'est exactement le même ordre que nous avons ici, fils de David, fils d'Abraham. Dieu avait fait des promesses à Abraham, il avait même fait une alliance sacrée, ou une alliance, sa sainte alliance, et il va se souvenir de sa sainte alliance. Ça aussi, c'est une expression qu'on trouve maintes fois dans l'Ancien Testament. Il y aurait des dizaines et des dizaines de parallèles à tracer entre chaque mot presque de Zacharie et puis des textes de l'Ancien Testament. Mais nous n'allons pas le faire, mais c'est absolument magnifique de voir combien ces gens pieux qui attendaient le Messie étaient nourris de l'espérance qu'ils avaient. Cette espérance était alimentée par tous ces textes de l'Ancien Testament. Et donc, ce souvenir, Dieu qui va se souvenir de l'Alliance. Et combien de fois nous avons dans les psaumes, dans les prophètes, « Souviens-toi, Éternel !» Eh bien là, Dieu va se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ah, alors à quoi fait-il allusion ? Eh bien, il fait allusion à Genèse 22. C'est vrai que nous trouvons plusieurs fois mention de l'Alliance dans le livre de la Genèse. Nous le trouvons l'alliance déjà au chapitre 12, quand Dieu dit à Abraham, sors d'Ur de Chaldée, et puis je te ferai devenir une grande nation, et toutes les nations, les tribus de la terre, tous les peuples de la terre seront bénis en toi. C'est l'alliance formellement est établie au chapitre 15, vous savez, quand Dieu passe entre les sacrifices divisés en deux, etc., elle est rappelée au chapitre 17, mais au chapitre 22, chapitre très important bien entendu, c'est à ce moment-là qu'il nous est dit que Dieu jure. Et au verset 15 du chapitre 22 de Genèse, l'ange de l'Éternel criait à des cieux à Abraham une seconde fois. La première fois, l'ange avait crié en disant « Épargne ton fils, arrête, n'étends pas ta main sur l'enfant. » Et la seconde fois, que dit l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, bien entendu, « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Certainement, je te bénirai. » Et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Et donc ici, Zacharie, conduit par l'Esprit, fait le lien avec l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, cette alliance fondamentale, si on peut dire, dans la Bible, puisque c'est à partir de cette alliance abrahamique que va se développer la bénédiction qui va finalement s'étendre à toutes les nations. C'est ce que Paul expose avec brio en Galates chapitre 3, en Romains chapitre 4, etc. Et donc cette alliance qui est si importante, il va y faire référence, mais précisément en renvoyant à Genèse 22, c'est-à-dire juste au moment du sacrifice d'Isaac, pour dire, ben vous voyez, c'est que en fait, pour que cette sainte alliance pour que Dieu s'en souvienne, pour qu'il puisse accomplir sa miséricorde, eh bien, il est nécessaire qu'un sacrifice intervienne. Et là, Abraham était prêt à sacrifier son fils. L'ange a arrêté la main. Mais, bien sûr, Zacharie n'a pas forcément tout ça en vue, mais nous qui avons le recul, nous pouvons nous dire, mais bien sûr, c'est parce que pour que Dieu se souvienne de cette alliance, pour que l'alliance envers Abraham puisse effectivement se développer et avoir son accomplissement, il était nécessaire qu'un sacrifice intervienne et qu'un père accepte de sacrifier son fils. Et c'est Dieu le Père qui va sacrifier son fils unique. Dieu a tant aimé le monde, nous l'avons rappelé ce matin, qu'il a donné son fils unique. Et alors cette alliance que nous avons encore rappelée en prenant part au pain et au vin tout à l'heure, cette sainte alliance, eh bien, ce serment qu'il a juré à Abraham, notre père, eh bien, il va l'accomplir. Et quel est le but final de cette sainte alliance? Nous l'avons au verset 74. Et c'est un très beau verset, je trouve. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Nous avions rappelé au début de notre thème sur louange, sacrifice, etc., qu'en fait le but ultime de Dieu, c'est que nous proclamions la gloire de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Ça c'est le but ultime de Dieu. C'est qu'il amène des hommes et des femmes en mesure de pouvoir louer la gloire de ce Dieu extraordinaire. Et c'est exactement ce que nous dit Zacharie ici. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de nos ennemis, une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous avons eu cette rédemption, eh bien nous pouvons sans crainte lui rendre culte. Et là, c'est aussi un élément nouveau qu'apporte Zacharie. Parce que le culte israélite, le culte juif, le culte qui avait été institué sur la montagne de Sinaï, c'était un culte avec crainte. Relisons Hébreux 12. Si terrible était la voix qui sortait de la montagne, que Moïse même, tout tremblant, demanda, et le peuple demandait qu'elle ne lui soit pas adressée, etc. Et puis le souverain sacrificateur, pour rentrer dans le lieu très saint, vous rappelez, il fallait qu'il prenne plein de précautions, et du sang, et de l'encens, et puis le peuple dehors se demandait toujours s'il allait ressortir ou s'il allait finir carbonisé comme Nadab et Abihu. C'était pas sans crainte. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit ce même auteur de l'Épître de Saint-Épître ? Ainsi donc, frères, ayant une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint par le chemin nouveau et vivant, nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, approchons-nous approchons-nous. Et donc, nous sommes sans crainte. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu peur de venir au culte. Hein? Vous n'avez pas eu peur de venir au culte. On est sans crainte ici, devant Dieu. C'est ce qu'on chante dans le cantique 80 des hymnes et cantiques. Eh bien, de toi, mon cœur s'approche sans crainte et sans effroi de mon Dieu. Ben oui, parce que nous savons que le sacrifice a été accompli, qu'il est définitif et que désormais, nous avons cet accès auprès de Dieu pour pouvoir lui rendre ce culte dans la sainteté et la justice tout au long de nos jours. Et donc, ça nous encourage. Zacharie, par cet hymne, nous encourage à aller dans ce mouvement de culte vis-à-vis de Dieu dans la sainteté et la justice. Nous avons évoqué tout à l'heure dans une prière cette justice. Et donc, ce culte que nous rendons à Dieu, Zacharie le met bien dans ses mots, eh bien, c'est un culte sans crainte, c'est un culte devant Dieu. Nous sommes en présence de Dieu, coram Deo, nous sommes devant Dieu. Et cela, tous les jours de notre vie, et nous pouvons lui rendre culte, donc la louange qu'il attend, mais aussi cette louange passe par une vie qui lui est consacrée et qui est marquée par la justice. Et c'est ainsi que Paul va dire que le royaume de Dieu, eh bien, c'est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Donc, c'est l'alliance que Dieu fait à Abraham, avec Abraham, qui va aboutir à cette bénédiction ouverte à la terre entière, et donc à nous qui ne sommes pas juifs, eh bien, à quoi va-t-elle aboutir ultimement ? À ce que des juifs et des non-juifs, comme l'expose Paul en Éphésiens 1, puissent louer Dieu éternellement et en attendant s'inscrivent dans ce chemin où ils montrent sainteté et justice tout au long de leur jour. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Troisième strophe qui commence au verset 76, cette fois-ci elle concerne Jean. Et que va dire Zacharie sur Jean ? Jean qui étonne beaucoup ceux qui sont là. Que sera cet enfant ? Que sera cet enfant ? Eh bien, il dit, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Prophète du Très-Haut. Et on sait que les prophètes sont allés jusqu'à Jean. Il sera le dernier des prophètes, le plus grand d'entre eux, dira même Jésus. Mais son rôle, ce n'est pas un rôle de premier plan. Et même son papa, parce que quand on est le père, on a bien envie que les enfants aient le premier rôle. Hein. C'est normal. Mais même les Zacharie, là, il perçoit tout à fait la chose. Et il ne prévoit pas pour Jean le premier rôle. Il dit juste, tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce à la tendre compassion ou à les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Et donc, il prévoit par avance ce que va être le ministère de Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste va appeler le peuple à la repentance. Le même évangile au chapitre 3 donnera quelques éléments très intéressants sur le ministère de Jean-Baptiste. Et il sera donc celui qui va préparer le Seigneur et qui va donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ça, c'est très important. C'est que le rôle de Jean-Baptiste, fondamentalement, ça a été d'annoncer « repentez-vous ». Quelle a été la proclamation de Jean-Baptiste ? Il suffit de tourner quelques pages hein, de notre Bible. Il est celui qui crie dans le désert. Il disait aux foules, eh bien, il proclamait le baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Donc le rôle de Jean-Baptiste, c'est de rendre le peuple conscient de ses péchés. Parce que la bénédiction promise par David, à David, la bénédiction promise à Abraham, pour qu'elle nous arrive à nous, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de se reconnaître pécheur. Sinon, nous sommes exclus. Nous sommes exclus de cette puissance royale qui est exercée par le fils de David. Nous sommes exclus de cette bénédiction et de cet accès direct à Dieu que nous promet le fils d'Abraham. Parce que s'il n'y a pas cette conviction de péché, s'il n'y a pas la conviction que nous ne sommes pas par nature dignes de venir à Dieu, d'être son peuple, eh bien, dans ces cas-là, nous sommes exclus. Et alors, vous voyez combien les choses sont extrêmement bien tournées, puisqu'il est question du pardon des péchés, et juste après, il est question des entrailles de miséricorde de notre Dieu. Je prends la traduction d'Harvey qui est très littérale. Parce que dans la Bible, quand on veut exprimer les sentiments débordants, eh bien, on parle des entrailles. Tout toutes mes entrailles s'émeuvent, peut dire Jérémie dans un très beau texte. Donc ces entrailles de miséricorde. Le cœur, nous quand les sentiments, c'est plutôt le cœur, mais dans la Bible, c'est plutôt les entrailles. Ça prend dans le ventre, si on peut dire. Et donc, c'est comme là si Zacharie dépeignait Dieu comme celui dont la miséricorde, la compassion, eh bien, déborde de sentiments généreux envers nous. Et c'est comme cela que nous devons voir ce Dieu. Et c'est comme cela que Zacharie l'a compris. Il a compris que le Dieu, notre Dieu, puisqu'il exprime les choses ainsi, que notre Dieu, finalement, avait ce trésor de bonté, ces entrailles de miséricorde pour accueillir des pécheurs. Et donc, Zacharie, ici, il anticipe la parabole du fils prodigue. Vous êtes d'accord? Ou du père extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même pensée que nous allons trouver développée dans l'Évangile, au travers de ces paraboles du Seigneur. Ces entrailles de miséricorde de notre Dieu, et qui vont nous accorder cette rémission de péché et nous donner la connaissance du salut, cette délivrance dont nous avons besoin. Puisque c'est le même mot que délivrance plus haut. Et vous aurez remarqué qu'il est question aussi de Jean qui sera prophète du Très-Haut. Alors c'est vrai que le ministère de Jean était absolument unique, puisque Jean est appelé le plus grand de ceux de l'Ancienne Alliance, etc. Mais il est appelé prophète du Très-Haut, et je me suis dit, ben tiens, finalement, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous prophètes. Nous sommes tous prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront quand la Pentecôte arrive, que Pierre rappelle la prophétie de Joël, et ils disent, ça s'accomplit maintenant. Donc tous les chrétiens et les chrétiennes sont, dans une mesure, des prophètes du Très-Haut, pour justement faire connaître autour d'eux, à la suite de Jean-Baptiste, eh bien deux choses. L'homme est pécheur, Dieu a des entrailles de miséricorde. Voilà. Et l'un va avec l'autre. Et l'un répond à l'autre. Et donc, ça nous encourage aussi, me semble-t-il, à nous inscrire dans cette lignée de Jean-Baptiste pour être aussi prophète et pour préparer le chemin que le Seigneur accomplit dans les cœurs, puisque c'est lui qui le fait. Quatrième et dernière strophe, c'est celle par laquelle Zacharie termine son cantique et où il va nous parler, cette fois-ci très directement, de celui qui va venir. Et il va le désigner par une expression que les traducteurs ont eu de la difficulté à rendre. La Nouvelle Bible Seconde nous dit le soleil levant, Darby nous parle de l'Orient d'en haut, la Seconde 21 nous dit que c'est le soleil levant qui nous a visités, Nouvelle Français Courant nous parle d'une lumière d'en haut semblable à celle du soleil levant. Souvent, les traducteurs mettent un peu des périphrases pour rendre en fait une expression qui est un mot unique, qui est ce surgissement de lumière. Alors, vendredi, je t'ai invité à un petit déjeuner professionnel et c'était sympa parce que c'était dans un immeuble un peu élevé dans Paris et il y a eu un lever de soleil. Vendredi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais extraordinaire. Il y avait des petits nuages et on a vu les nuages devenir roses et puis prendre un peu toutes les teintes de rose et à un moment, pof, le soleil surgit. C'était extraordinaire. Et alors, ça me fait penser à cela. L'Orient d'en haut, le soleil levant nous a visités. Quand on a eu une longue nuit, qu'on a trouvé que la nuit était longue et que finalement, le soleil surgit. Mais quelle vision fabuleuse, quelle vision extraordinaire nous avons. Et là, le petit bébé qui va naître trois versets ou quatre versets après, eh bien, est comparé à ce soleil levant, cet Orient d'en haut, et de nouveau qui nous a visités. C'est-à-dire que la visitation de Dieu, dont il est question au verset 68, au tout début du chant, eh bien, comment va-t-elle se faire ? Est-ce qu'elle va se faire avec une démonstration de force et de puissance, avec les armées du Pharaon renversées dans la mer comme autrefois? Non. Elle va se montrer par la venue de celui qui est appelé l'Orient d'en haut ou le soleil levant. Alors bien entendu, c'est aussi saturé de citations et d'allusions à l'Ancien Testament, et cela fait allusion au texte de Malachie chapitre 3. Dans Malachie chapitre 3 et au verset J'ai loupé le verset. Non, c'est au verset, chapitre 4, pardon, chapitre 4, verset 2. « Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. » Voilà. Et donc, c'est ce soleil de justice qui était attendu, 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 qui était finalement la dernière parole de ce dernier des prophètes qui était Malachie, eh bien, nous le retrouvons ici dans le cantique de Zacharie, avec cette lumière d'en haut qui surgit. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela, parce que ce mot qui est traduit ici par soleil levant, ou par ce qui se lève, eh bien, on peut aussi le comprendre comme une plante qui se lève. Et c'est ainsi que dans les Septante, la traduction en grec de l'Ancien Testament, le mot germe dont il est question, ce germe qui allait germer, Jérémie chapitre 23, Zacharie chapitre 6, dont il est question aussi dans le prophète Ésaïe, eh bien ce germe de l'Éternel qui allait germer, cette plante, alors qu'apparemment tout était mort, tout était du bois sec, eh bien cette plante, ce germe, c'est le même mot que celui qui est utilisé ici. Et donc vous voyez aussi cette confluence de citations et d'allusions à l'Ancien Testament, ce Jésus qui est à la fois ce soleil qui va nous illuminer et cette racine qui va pousser pour porter du fruit pour Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette lumière? Elle va luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, allusion bien entendu à Ésaïe chapitre 9, nous en avons lu quelques versets auparavant, hein, ce peuple de Nephtali et de Zabulon qui est assis dans les ténèbres et la lumière et l'ombre de la mort, et elle va luire pour nous. Et c'est ce que nous rappelons à Noël. Et c'est pour cela que quelque part, même si on pense que Jésus est effectivement né plutôt dans la période de Pâques, je trouve que c'est pas mal qu'en fait la naissance de Noël, de Jésus à Noël, c'est-à-dire le 25, bon, hier c'était le premier jour de l'hiver, mais à partir de ces jours-ci, ou de jours près, eh bien la lumière recommence à croître. Ça y est, c'est fini. C'est fini des jours qui décroissent et qui deviennent de plus en plus sombres. La lumière arrive. Et donc, c'est bien cela que et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'on a rapproché l'événement de la naissance de Jésus avec cette fête païenne d'autrefois de la lumière, parce que cet Orient d'en haut nous a visités et il est venu pour nous illuminer, pour faire luire ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, ces pécheurs dont il était question juste avant, et pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on rappelle très souvent à Noël. À Noël, on dit ben, paix parmi les hommes de bonne volonté, etc. On va entendre Pape François qui va faire un appel sans doute assez touchant, comme souvent, à la paix, sa proclamation « Oui, et orbi, vie la terre ». Et on va faire des souhaits de paix à l'occasion de Noël. Et c'est normal qu'on fasse des souhaits de paix, parce qu'on se rappelle que qui c'est qui vient ? C'est celui qui vient pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. C'est celui qui veut diriger nos pas dans un chemin de paix. Et paix dans toute la richesse de ce mot. Vous savez que le thème de la paix dans la Bible, ça recouvre trois notions. Alors nous, souvent paix, on pense paix, pas guerre, absence de guerre, c'est-à-dire absence de conflit. Et Dieu veuille que cette année 2025 soit un peu moins conflictuelle que les précédentes. C'est vraiment la prière que nous pouvons faire monter. Et donc, c'est cette absence de conflit. Mais deuxième sens, la paix, c'est aussi la tranquillité, l'absence de troubles. Et la paix, troisièmement, c'est aussi la plénitude. Et il y a aussi cette notion-là dans le shalom hébreu dont ici nous avons l'écho. Et donc, sous ces trois aspects-là, eh bien, cet Orient d'en haut qui a brillé sur nous, cette lumière qui a brillé dans nos cœurs, eh bien, elle veut nous conduire, diriger nos pas vers le chemin de la paix. Et je trouve cette expression particulièrement heureuse parce que, vous comme moi, je suppose que la paix, absence de conflit, ah oui, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de conflit, mais parfois même les rencontres familiales les plus heureuses en théorie peuvent réactiver quelques vieux conflits. Ça peut arriver. La paix intérieure, là aussi, nous aimerions pouvoir l'éprouver tous les jours de notre vie, mais si celui qui nous aime a quitté les siens en disant que votre cœur ne soit pas troublé, c'est bien que parfois il y a du trouble dans notre cœur. Et cette plénitude à laquelle nous aspirons, nous savons bien que nous n'y sommes pas encore aujourd'hui. Et donc c'est bien un chemin que nous ouvre Noël, que nous ouvre la venue de ce soleil levant, de cet orient d'en haut. Un chemin dans lequel nous sommes invités à progresser pour que cette paix, terme clé d'ailleurs de cet évangile selon Luc, soit dit en passant, et bien que cette paix soit toujours plus profonde dans notre cœur. Alors nous sommes invités au cours de cette année scolaire à regarder ce thème de la louange, de l'adoration, du sacrifice. Et que fait Zacharie ? Je termine par là. Il bénit l'Éternel, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et nous pouvons bien bénir le Seigneur parce que nous avons celui qui est le fils de David. Nous avons celui qui est ce puissant roi qui va nous délivrer des ennemis les plus fondamentaux que nous avions, qui sont le diable, le monde, la mort, la chair, tout cela, il les a vaincus. Tous nos ennemis, il les a vaincus. Nous avons celui qui est le fils d'Abraham, et nous pouvons bénir Dieu pour nous avoir donné le fils d'Abraham. Ce fils d'Abraham qui va accomplir cette alliance qui datait de si loin, 4000 ans en arrière, et qui est la bénédiction de toute la terre et cet accès direct à Dieu. Nous pouvons bénir Dieu aussi parce que nous avons eu cette connaissance du cœur de notre Père, de ses entrailles de miséricorde qui répondent à notre besoin, à notre péché. Et nous pouvons bénir aussi le Seigneur notre Dieu parce qu'il nous a envoyé cette lumière qui a surgi et qui veut nous faire progresser jour après jour dans ce chemin de la paix.